l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Saint-Céré, 95.8.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce présent ce midi. C'est une nouvelle édition de ce magazine avec au sommaire, dans quelques instants, nous prendrons la direction du Gers avec notre correspondante Pauline Cazier, qui est allée à la rencontre des moniales de l'abbaye cistercienne de Boulor. Ses sœurs se sont lancées depuis quelques mois dans une collecte de fonds pour financer une fraise rotative, un outil indispensable à leur exploitation agricole. Une vente solidaire est d'ailleurs organisée jusqu'au dimanche 19 octobre à minuit. Vous entendrez dans un instant donc Sœur Diane qui nous parlera de ce beau projet communautaire. Et puis en deuxième partie, place à la lecture avec le livre Navigation de nuit d'Amélie Roulier. À travers la métaphore marine, l'auteur y raconte le chemin du deuil qu'elle a traversé après la perte de son plus jeune frère. Une traversée intime et lumineuse malgré la douleur. Un ouvrage que nous découvrons avec Diego Arabal et Philippe Noni dans la chronique Un jour un livre, un auteur. Voilà le sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, donc, nous partirons pour le Gers, direction l'abbaye cistercienne de Boulor. Mais avant, on retrouve Éric Leclerc pour l'essentiel à 12h, passé de 3 minutes de l'actualité de notre région. Bonjour Éric.
Un appel à la grève dans les bibliothèques municipales toulousaines ce mercredi. Un mouvement motivé par une dégradation des conditions de travail depuis la rentrée de septembre. En l'espace d'un an, les bibliothèques de Toulouse ont perdu 15% de leur personnel. Aucune embauche n'était faite depuis 2024. Une décision qui fait suite à la baisse par l'État des budgets attribués aux collectivités. Mécaniquement, la mairie de Toulouse a diminué d'1 million d'euros l'aide aux bibliothèques. Salon idées métiers à Foix, dédié à l'orientation des collégiens les 16 et 17 octobre. Plus de 2300 collégiens sont attendus durant ces deux jours. Ces salons au format innovant ont été pensés pour répondre spécifiquement aux besoins d'orientation des élèves de 4e et de 3e. L'objectif est de valoriser les formations et les métiers, notamment ceux de la voie professionnelle, de présenter les acteurs économiques du territoire et de faire découvrir aux jeunes des parcours emblématiques via des activités interactives, des animations et des témoignages. 10e édition de la campagne nationale Moi sans tabac, un défi collectif proposé chaque année à tous les fumeurs souhaitant arrêter le tabac avec un accompagnement gratuit personnalisé. En Occitanie, ce sont 1,2 million de fumeurs quotidiens. Près de 6 fumeurs sur 10 déclarent vouloir arrêter. La campagne Moi sans tabac leur offre une opportunité concrète et motivante pour franchir le cap. Pour aller à la rencontre des fumeurs, la tournée régionale des villages Moi sans tabac sera en Occitanie avec des stands d'information, des animations, des entretiens gratuits avec des tabacologues et des conseils personnalisés.
Merci beaucoup Éric Leclerc. On vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 12h30 pour le journal régional de la mi-journée. Dans quelques instants, je vous le disais, nous partirons dans le Gers et puis nous parlerons de deuil aussi avec l'invité de Philippe Noni et Diego Arabal. Elle s'appelle Amélie Roulier et elle a écrit un livre qui s'appelle Navigation de nuit. Restez à notre compagnie. Avant cela, on va faire une petite pause musicale avec Umberto Tozzi.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous.
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
da sempre di una voce amica delle tante manie che hanno scritto qualcosa con milioni di rose. Tu piccola furia, io vivo per te da sempre come anni fa, ma ora siamo al riparo sotto un cielo più grande di milioni di rose. Io vengo dal cielo, le stelle tra loro parlano solo di te. Da musicista scivolando le mani sul tuo corpo sarà. Petite Marie, ti aspetta così la mia illusione sopra un tetto tra tempeste di freddo. Penso alle canzoni che ho scritto per te. Tu piccola furia, hai detto che questo anello guarirà una vita, ma anche il sole d'agosto non riscalda il tuo posto e piange con me. Io vengo dal cielo, le stelle tra loro parlano solo di te. Da musicista scivolando le mani sul tuo corpo sarà. Dalla penombra, perché tu, Petite Marie, non esci più. C'è una luna che sorride come te. Dice che tornerà così la notte che passerai da qui. Ci vedrà per mano correre. Io vengo dal cielo, le stelle tra loro parlano solo di te. Da musicista scivolando le mani sul tuo corpo sarà.
Dans la Haute-Ariège, 92.7.
De nuit, telles étaient nos heures, telles étaient nos vies. Fut-il adolescent, tout nous était permis. Roi de pacotille, prince démuni, on n'est riche que de ses amis. Amour impossible, défaite, ironie. Quand tout s'abîme, quand même nos rêves fuient, il ne reste qu'une île, un port, un parti. On n'est riche que de ses amis.
proche que de mes amis.
Présence à Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Les moines de l'abbaye cistercienne de Boulors, dans le Gers, se sont lancés depuis quelques mois dans un projet de collecte de fonds pour financer une fraise rotative, outil qui leur servira à travailler dans l'exploitation agricole de l'abbaye. Une vente solidaire est donc organisée jusqu'au dimanche 19 octobre à minuit. Je vous propose d'écouter l'interview de Sœur Diane qui nous parle de ce projet. Elle est au micro de Pauline Cazier.
Juste sur quelques jours, là, on a lancé une petite opération de communication et de vente de nos produits pour nous permettre d'acquérir un nouvel outil agricole. En fait, nous avons une ferme, nous avons 130 hectares en agriculture biologique. Avec ces dernières années, la reconstruction justement de toute la partie agricole et l'augmentation du volume d'activité pour nous permettre vraiment de faire vivre la communauté avec notre activité. Et aujourd'hui, nous devons investir un peu dans des outils qui nous permettent de bien pratiquer cette agriculture biologique. Et donc là, on avait besoin d'acheter une fraise rotative. Et pour cela, c'est des gros investissements et donc la vente d'un certain nombre de nos produits va nous aider à ça. Et donc il fallait communiquer un petit peu plus que simplement par le biais de notre magasin à l'abbaye.
Alors je reviens à l'exploitation.
Oui.
Racontez-nous comment ça se passe, qu'est-ce que vous produisez ?
Alors, notre exploitation agricole, elle est aussi vieille que notre communauté, donc elle a à peu près 75 ans, parce que nos 5 premières sœurs ont commencé à cultiver le jardin pour pouvoir se nourrir et ont eu assez vite une vache qui servait à enrichir la terre avec le fumier et puis qui a donné son lait, et puis un cochon pour ne rien perdre. Et tout ça a grandi doucement jusqu'à atteindre 6-8 vaches et puis peut-être 12 cochons par an. Et à cette époque-là, les sœurs ont commencé à produire du fromage. Dès le début, elles faisaient des confitures avec les fruits du jardin. Et puis ensuite, on s'est lancé dans la production de pâtés. Au fil de l'eau, la communauté a grandi. On a oublié de faire grandir l'exploitation agricole. Donc il y a eu un petit décalage à rattraper et sur lequel on a travaillé là ces 5 dernières années pour pouvoir avoir une ferme dimensionnée pour la communauté. Et donc aujourd'hui, nous produisons toujours les confitures, le fromage et maintenant du yaourt, toujours des pâtés. Actuellement, ce ne sont pas nos porcs, ce sont des porcs du sud-ouest que nous achetons et nous prévoyons de reprendre d'un élevage de porcs d'ici quelques années. Et puis, nous avons rajouté aussi la farine, production de farine, voilà, avec nos céréales. Et nous avons maintenant confié aussi notre matière première avec un certain nombre d'artisans voisins qui nous permettent de proposer aussi dans notre magasin notamment de la bière, des pâtes, des petits biscuits apéritifs, de l'huile de tournesol, voilà, pour les idées en cours.
Tous les produits que vous produisez, disons, vous avez choisi de faire de l'agriculture biologique, c'est-à-dire évidemment ne pas mettre de pesticides.
Oui, en fait, ça fait déjà une dizaine d'années que nous sommes passés en bio, en s'apercevant que le cahier des charges bio était très proche de nos pratiques à l'époque. Donc finalement, il y avait assez peu de choses à faire pour rentrer dans cette agrémentation, en fait. Disons que derrière, c'est comme moniale chrétienne, en fait, prendre soin de la création et de ce qu'il y a de bon dans la création. Donc, si on veut un produit qui soit bon pour l'homme, il faut avoir transmis le bien d'une étape à l'autre du travail. et pas accélérer des choses par une destruction artificielle de la terre, de certains micro-organismes, etc. Donc c'est vrai que le travail en bio, en tout cas le travail raisonné, l'agriculture régénératrice, ça a vraiment du sens pour nous.
Combien de sœurs êtes-vous dans l'exploitation ?
Alors, pour l'exploitation, je dirais l'équivalent peut-être de 3 sœurs, voilà, sur la partie terre et animaux. Et on a également 2 jeunes femmes salariées qui nous aident, et une apprentie qui vient de démarrer 2 ans d'apprentissage chez nous.
Il y a d'autres personnes extérieures, des ouvriers qui vous aident ?
Alors, non, pas au-delà des personnes que j'ai citées, sinon c'est essentiellement nous qui réalisons le travail. Alors, par exemple, nous n'avons pas de moissonneuse. Donc là, pour le coup, le travail comme la moisson, c'est un ouvrier agricole. Mais là, sinon, pour le reste, nous sommes capables de réaliser toutes les étapes nous-mêmes.
Alors, je reviens à ce matériel que vous souhaitez acquérir. Une fraiseuse, c'est ça, c'est ce qu'on m'avait dit ?
Une fraise rotative.
Alors, expliquez-nous à quoi ça va servir.
Alors, ça fait un peu penser au dentiste, comme ça. Mais cette fraise rotative, c'est un outil qui va être justement utile dans nos types de cultures, où, par exemple, on peut avoir... une terre cultivée en prairie pendant pas mal d'années, pour des rotations de culture, on va implanter une céréale l'année prochaine. Et en fait, il faut pouvoir détruire la partie herbe, mode de terre, ce qui a couvert en fait la surface, mais sans détruire le sol en fait et la vie du sol. Et la fraise rotative va venir en 2 étapes. Couper, et déchaumer et hacher un petit peu la partie supérieure du sol, mais sans détruire tous les micro-organismes et tout ce qui s'est passé. Est-ce que les prairies ont enrichi le dessous de la terre ? Et il ne faudrait pas, par des pratiques trop rapides ou trop... casser ce travail-là qui va être nécessaire pour la culture suivante.
Donc, cette campagne a une date limite, c'est-à-dire le 19 octobre à minuit. Comment ça se passe ? Les gens peuvent commander sur le site, dites-nous.
Alors, c'est une opération qu'on a mise en place avec Divine Box, cette petite start-up de vente de produits monastiques, justement parce que eux ont déjà en place un bon réseau de personnes qui aiment les produits monastiques. Et donc, par leur site, on peut commander différents types de produits, avec un prix particulier. Et c'est une opération spéciale pour tâcher d'écouler 3000 produits d'ici le 19 octobre, ce qui nous permet de couvrir une bonne partie des frais d'achat de cette fraise rotative.
Là, vous êtes optimiste sur d'ici le... Vous sentez qu'il y a du répondant de la part des clients ?
Oui, alors moi je serais très optimiste en fait, surtout je pense que c'est un moment de solidarité qui rend visible ce qui existe de manière invisible d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un monastère et des personnes qui prient, et puis des sœurs qui travaillent et qui proposent aussi des produits, et puis de l'autre côté des personnes qui vivent et qui ont besoin régulièrement de retrouver le sens de leur vie et ce sens spirituel aussi. Et c'est vrai que là, une opération comme celle-là, ça nous permet de nous rapprocher des personnes qui ne peuvent pas venir jusqu'à l'abbaye et d'être dans un échange de sens en fait.
Donc on peut se rendre sur le site de Divine Box, c'est ce que vous m'avez dit ?
Exactement, pour pouvoir accéder à cette offre un peu spéciale et puis participer justement à cette opération sur les quelques jours qui viennent.
On peut venir aussi à la nouvelle boutique, les travaux sont magnifiques, vous avez entrepris vraiment d'agrandir la boutique, c'est aussi possible ?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, et pour les personnes qui sont proches aussi, c'est une bonne idée de venir à l'abbaye, et puis vous aurez en plus une proposition encore plus large de produits. Et c'est ce que je disais, on a redimensionné notre activité agricole, mais du coup, on a redimensionné aussi le magasin, et ça nous a permis d'aménager tout un espace d'accueil quand on arrive à l'abbaye, avec l'abbatiale au fond, et c'est très très beau, c'est vraiment des très beaux espaces, et donc ça nous permet de de faire grandir cette relation aux personnes qui viennent nous rendre visite, qui découvrent nos produits, qui découvrent l'abbaye, et de proposer aussi d'autres produits monastiques et des produits du terroir à la vente chez nous.
Voilà, à l'instant, c'était sœur Diane de l'abbaye cistercienne de Boulor, dans le Gers. Elle était interrogée par Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.
On a fait au château il y a bien longtemps, les belles et les beaux nobles y au noble sang. De tout le royaume on est venu dansant. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. Grande fête aux rameaux et Manon à 16 ans, servant dans ce château comme sa mère avant. Elle porte les plateaux lourds à ses mains d'enfant. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. Le bel uniforme en le beau lieutenant, différent des hommes d'ici blond et grand. Le sourire éclatant d'un prince charmant. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. Redouble la fête et les rires et les danses. Manon s'émerveille en remplissant les panses. Le bruit des lumières. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne s'en va. Tourne les vieux, tourne les vieux, non. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche, lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Tu es bien jolie dans un divin sourire. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne s'en va. Tourne les vieux, tourne les vieux, non. Les années dures et grises à servir, une vie de peine et si peu de plaisir. Mais ce trouble-là brûlant ses souvenirs. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les vieux. Prenant son verre auprès d'elle, il se penche, lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Juste quatre mots, le trouble d'une vie. Juste quatre mots qu'aussitôt il oublie.
Vous avez sûrement reconnu la voix de Jean-Jacques Goldman à l'instant avec ce titre « Tourne les violons ».
Radio Présence dans la Cité Mariale, 96.
On retrouve l'actualité à la mi-journée avec Éric Leclerc. Bonjour Éric.
Bonjour, un appel à la grève dans les bibliothèques municipales toulousaines ce mercredi. Un mouvement motivé par une dégradation des conditions de travail depuis la rentrée de septembre. En l'espace d'un an, les bibliothèques de Toulouse ont perdu 15% de leur personnel. Aucune embauche n'a été faite depuis 2024. Une décision qui fait suite à la baisse par l'État des budgets attribués aux collectivités. Mécaniquement, la mairie de Toulouse a diminué d'1 million d'euros l'aide aux bibliothèques. Salon idées métiers à Foix dédié à l'orientation des collégiens les 16 et 17 octobre. Plus de 2300 collégiens sont attendus durant ces deux jours. Ces salons au format innovant ont été pensés pour répondre spécifiquement aux besoins d'orientation des élèves de 4e et de 3e. L'objectif est de valoriser les formations et les métiers, notamment ceux de la voie professionnelle, de présenter les acteurs économiques du territoire et de faire découvrir des parcours emblématiques via des activités interactives, des animations et des témoignages. Dixième édition de la campagne nationale Moi sans tabac, un défi collectif proposé chaque année à tous les fumeurs souhaitant arrêter le tabac avec un accompagnement gratuit personnalisé. En Occitanie, ce sont 1,2 million de fumeurs quotidiens. Près de 6 fumeurs sur 10 déclarent vouloir arrêter. La campagne Moi sans tabac leur offre une opportunité concrète et motivante pour franchir le cap. Pour aller à la rencontre des fumeurs, la tournée régionale des villages Moi sans tabac sera en Occitanie avec des stands d'information, des animations, des entretiens gratuits avec des tabacologues et des conseils personnalisés. Voici les villes et les dates. À Toulouse, les 15 et 16 octobre. À Ibos, près de Tarbes, le 17. Caussade et Monteil, le 3 novembre. Mirande, le 4. Gourdon, le 6. Biars-sur-Cère, le 7. Lavelanet en Ariège, le 14. Et à Decazeville, le 18. Une fois par mois, le Pays d'art et d'histoire du Grand Figeac propose un rendez-vous inédit pour découvrir les richesses patrimoniales des 92 communes. Les visites de villages sont des parcours guidés au cœur du patrimoine bâti et paysager, animés par des médiateurs professionnels. Prochain rendez-vous, samedi 18 octobre à 14h30, place Carnot, Figeac, des chantiers en cœur de ville. Cette visite offrira un éclairage sur des chantiers récents, témoin de l'exigence de la politique de sauvegarde et de mise en valeur d'un patrimoine exceptionnel et des savoir-faire des métiers du bâtiment.
Merci beaucoup Éric Leclerc, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur l'information à la mi-journée. Le retour de l'actualité, vous le savez, ce sera 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Nous allons parler malheureusement de deuil avec un jour, un livre, un auteur. Je vous propose donc de retrouver tout de suite, elle s'appelle Amélie Roulier, c'est l'invitée donc de Philippe Loni et Diego Arabal.
Présence à Pau 96.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercaz.
C'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est un duo célèbre. Après Starsky Hutch, il y a Philippe Noni et Diego Arabal.
Avec des cheveux blancs.
Oui, c'est ça, ils ont bien vieilli pour bien sûr notre moment littéraire de la semaine. On rigole, mais on va parler d'un sujet qui n'est pas...
Qui est grave.
Qui est un sujet grave, tout à fait. Vrai, puisqu'on va parler de la mort.
Tout à fait. Bonjour Philippe Subercaz et bonjour Diego Arabal.
Bonjour les deux Philippe.
Qui n'a jamais été touché par la perte d'un être cher, qui n'a jamais connu la douloureuse et terrible épreuve du deuil. Pour celles et ceux qui vont se reconnaître dans ces deux questions, il est sans doute encore temps de prêter l'oreille et d'écouter l'interview qui va suivre. L'auteur a vécu la perte de son petit frère, et l'écriture a été un véhicule pour construire son deuil. Elle a écrit un témoignage émouvant, touchant, qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Navigation de nuit, publié chez Pierre Tecky, éditeur. Bonjour Amélie Roulier.
Bonjour.
Vous êtes donc l'auteur de Navigation de nuit, publié donc par Pierre Tecky, éditeur. Merci d'avoir accepté donc notre invitation, hein, tout d'abord sur les ondes de présence. Je vais lire la quatrième de couverture de votre ouvrage. Et puis on va passer en suivant aux questions. En décembre 2015, Amélie perd Dominique, l'un de ses petits frères, dans un accident familial. Le choc a l'effet d'une vague déferlante qui surgit au beau milieu d'une vie de jeune professionnel bien remplie. Malgré un entourage présent et une famille nombreuse, sa vie prend la tournure d'une traversée en solitaire imposée. Du creux de la tempête, au retour au port, le récit suit la jeune adulte endeuillée, aînée d'une fratrie amputée, dans son quotidien et sa quête de paix. Elle y partage ses combats en offrant au lecteur les clés de ce qui a contribué à la remettre debout. La parole d'une aînée, qui rappelle que les frères et sœurs sont souvent les grands oubliés dans les deuils familiaux. Une réflexion sur le deuil des jeunes dans une société où la mort est un sujet tabou. Amélie Roulier, vous n'aviez jamais pris la plume avant la perte tragique de votre frère ?
Jamais.
D'accord. Quel a été votre moteur pour choisir le chemin des mots et nous offrir, donc Philippe Subercase le disait tout à l'heure, ce très beau témoignage en nous embarquant dans votre bateau, donc qui s'appelle votre témoignage, Navigation de nuit, Pierre Tecky, éditeur. Ça a été quoi ce moteur pour choisir le chemin des mots ?
Je pense que y a eu plusieurs choses, mais les mots, déjà on prend le temps qu'il faut pour les écrire. Ça oblige à un chemin de réflexion, à un chemin de trouver les justes mots. Et puis ça permet aussi aux lecteurs de prendre ce qu'ils ont besoin de prendre, d'y revenir. Après, c'est sorti un peu de nulle part pour moi, même si je viens d'une famille où certains ont des vrais talents d'écrivain. J'ai eu une intuition, je me suis dit peut-être que ma manière de participer à cette... À lever ce tabou du deuil, c'est par là que ça doit passer, pour moi en tout cas. D'autres font des films ou vont utiliser d'autres médias, mais pour moi ça a été vraiment l'écriture qui s'est imposée au début de cette aventure pour moi.
Vous écrivez en page 14 de votre ouvrage, donc de votre témoignage, Navigation de nuit, il a publié donc chez Tecky Éditeur, vous écrivez ces mots, je vous cite. Ce journal de bord est le mien, celui d'une jeune femme et aînée de 6 enfants qui a perdu son plus jeune frère. Il n'est pas celui de mes parents, ni de l'un des membres de notre grande famille ou celui des amis de Dominique. Chacun de son côté a vécu ou vit encore cette traversée. Son intimité, comme son chemin personnel face à ce drame, se doit d'être respectée. Enfin, je demande pardon à ceux qui pourraient souffrir en voyant dans mon expérience une provocation ou une violente atteinte à leur histoire personnelle parce que dans leur tempête, les choses sont bien différentes. Comment on fait à un moment donné pour écrire effectivement ce témoignage ? Parce que vous êtes consciente, on le voit là dans les mots que je viens de lire, qui sont les vôtres, qu'au moment où vous l'écrivez, vous vous dites en fait, il n'y a pas un deuil, il y a des deuils. Il y a autant de deuil qu'il y a effectivement de personnes. Et c'est vrai que là, quand vous écrivez cela, ça veut dire que pour vous, la perte d'un être cher, elle n'est jamais vécue de la même façon par une fratrie ?
Elle n'est jamais vécue par personne, en fait, de la même manière, que ce soit au sein de la fratrie ou plus largement, parce qu'on fait le deuil d'une relation qui est très singulière. C'est d'une personne à une autre personne, et le lien qu'on a avec notre petit frère dans notre fratrie, pour nous citer nous, il avait été différent. On n'avait pas les mêmes âges quand il est né, on n'avait pas les mêmes relations. À chaque fois, c'est très singulier. Et en même temps, de l'extérieur, on pourrait imaginer que ce soit un peu équivalent, puisqu'on a reçu la même éducation, on a les mêmes parents, en tout cas dans notre situation. On a vécu ensemble, etc. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est vraiment que chacun arrive avec son histoire avec la personne, et puis où il en est dans la vie, ce qu'il a vécu dans sa vie, sa foi, sa religion, de manière plus large. Donc il y a quelque chose vraiment de très unique, même si aujourd'hui je peux le dire parce que je l'ai appris, entre guillemets, il y a des choses qui se ressemblent d'un deuil à un autre. Il y a des vécus qui peuvent se connecter, il y a des résonances entre les vécus de deuil, mais c'est toujours différent. Et c'est même toujours différent quand vous allez vivre, la perte d'une personne puis d'une autre. Ça peut être des deuils très différents, des réactions très différentes. Donc c'est important, effectivement, de le noter.
Ouais, de votre côté, alors c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, dans votre témoignage, vous comparez votre épreuve à une traversée en bateau, d'où le titre Navigation de nuit. Vous avez un bandeau, donc en bas de page de votre roman, qui s'appelle Un chemin de consolation face au deuil, effectivement, d'un frère. Donc de votre côté, comme je le disais, vous comparez votre épreuve à une traversée en bateau avec ses tempêtes, ses doutes, et la croyance, on le voit tout au long de votre témoignage, donc c'est un fil rouge, hein, qui est pour vous un support essentiel, même si vous avez des doutes, hein, qu'à un moment donné, on sent votre colère aussi, effectivement, par rapport à Dieu, de dire, mais pourquoi, quelque part, tu m'as enlevé mon petit frère, quoi. Et vous avez un doute quant à la perte, quant à cette perte-là. Qu'est-ce qui a changé chez vous avec le deuil, effectivement, de votre frère, et qu'est-ce qui a changé dans votre rapport à la religion ?
Alors, je dirais que la première chose, c'est ça a renforcé ma foi en l'après. Alors, on dit la communion des saints quand on est catholique, mais voilà, le fait qu'on va retrouver, on est connecté aux gens qui sont décédés. Donc ça a renforcé ça chez moi. D'une certaine manière, ça a un peu enlevé ma peur de la mort. Je sais que voilà, quand ce sera mon tour, il y a une partie de ceux que j'aime qui sont déjà là-bas. Voilà, c'est difficile peut-être à comprendre, mais il y a ça. Et puis ça a aussi beaucoup questionné ma foi. Effectivement, vous avez parlé de la colère, donc que j'évoque dans le livre. Pour moi, ça a épuré ma vision de Dieu, en fait. Parce que quand on est confronté à l'épreuve, en fait, on est obligé de sortir des petits schémas un peu faciles de Dieu même. Ça vient questionner ça, en fait.
Ça vient questionner un peu aussi, c'est ce que vous expliquez. On va parler un peu après de votre vie professionnelle. Hein. J'en parlais tout à l'heure, donc en exergue, hein, de ce que ça a orienté chez vous. Moi, ce que je voulais rappeler, avant de vous poser la prochaine question, c'est situer un peu ce qu'est le deuil. Le deuil, ce sont 5 étapes. La première étape, c'est le déni. Hein, c'est pas possible, ça n'a pas pu m'arriver, etc. La deuxième étape, c'est la colère. C'est mais pourquoi moi ? Pourquoi ça a frappé mon petit frère ? La troisième étape, c'est la négociation. On commence effectivement à essayer de combiner avec le réel pour pouvoir accepter ça. La quatrième étape, c'est la dépression, hein, où là vraiment donc on plonge. Et la cinquième étape, c'est celle effectivement où on construit quelque part l'absence de l'autre, donc, et c'est l'étape de l'acceptation. Vous écrivez dans votre témoignage, l'amitié nous offre cet espace qui permet de dire notre vulnérabilité. L'épreuve est un révélateur de la puissance ou de l'absence d'une réelle amitié. Dans le deuil, donc l'amitié pour vous, quelque part, c'est ce que vous dites dans votre témoignage, c'est un fanal qui vous a guidé dans l'obscurité. Surtout, quand j'ai lu cette phrase terrible sur votre site, qui parle effectivement des formations que vous êtes amené aujourd'hui à effectuer, vous avez une personne qui vous dit « tu as dû moins souffrir que ta mère ».
Oui, oui. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer d'y répondre intégralement. La première chose, alors les étapes que vous avez citées, c'est les étapes que Elisabeth Kubler-Ross avait modélisées,
tout à fait.
Voilà, on utilise aussi, moi j'utilise plus celles qui ont été décrites par Christophe Fauré, qui est un de nos contemporains, mais toujours.
Et qui sont ces étapes-là, celles-ci
Alors, la première étape, c'est le choc. Le choc et la sidération. La deuxième étape, ça va être la fuite-recherche. Donc l'ambivalence, en fait, à la fois on recherche à se connecter à la personne à travers plein de méthodes, hein. Ça peut être en mettant ses habits, en respirant son parfum, en écoutant sa musique, en allant, pour certains, se connecter via des médiums. Ça, c'est la fuite et la recherche. Il y a la fuite aussi de la douleur. Et ensuite, on a une déstructuration et une restructuration qui sont deux mouvements de... la déstructuration, c'est la plongée en général dans quelque chose qui ressemble à une dépression, mais qui n'est pas une dépression. Je vais très très vite, hein, mais voilà, je donne quelques clés. Et qui va en fait être tout un chemin d'intégration de l'absence. Et puis la restructuration, c'est vraiment... au fur et à mesure, j'ai intégré... ce nouveau lien qui est d'une certaine manière en moi et qui va me permettre de reprendre peu à peu ma vie. Alors après, forcément, ces étapes, elles sont un peu à cheval les unes des autres. Hein. C'est pas linéaire comme on
l'essaie de croire. Oui, tout à fait.
Il y a beaucoup d'émotionnel, de tourbillons émotionnels là-dedans. Et puis, il y a des vécus très différents en fonction du contexte, du lien avec la personne qu'on avait. Forcément, quand on est veuf ou veuve, quand on est un enfant qui perd un parent, quand on perd un grand-parent, on a des impacts qui sont un peu différents. Et c'est vrai aussi pour le contexte initial. Ça, c'était pour la partie théorique. Concernant l'amitié, effectivement, ça a été... pour moi, ça a été vraiment un phare dans la nuit. Ces amis qui étaient là, qui n'ont pas changé, qui sont restés eux-mêmes, et qui en même temps avaient conscience que voilà, c'était difficile pour moi, que je pouvais dire non, que j'étais pas assez forte aussi pour prendre certains engagements à certains moments, mais que j'étais quand même assez forte pour en prendre. Voilà, il y a plein de choses, et effectivement, j'ai vécu comme beaucoup de gens ces amis qui disparaissent aussi, parce que la douleur est trop compliquée à gérer, la souffrance est trop compliquée à gérer. Donc oui, vraiment, pour moi, ça a été, les épreuves de la vie sont vraiment des révélateurs de la puissance d'une amitié, c'est sûr.
Je voudrais qu'on dise deux mots, vous l'avez évoqué un peu à Amélie Roulier, hein, j'en parlais tout à l'heure, donc de votre vie professionnelle, hein, suite à la perte de votre frère, alors pas tout de suite, hein, on voit que ça fait partie effectivement de l'étape du deuil. Vous avez monté un organisme d'accompagnement au deuil intitulé Amélie Roulier Accompagnement du Deuil. Donc pour préparer cette émission, hein, j'ai été voir sur votre site un peu tout ce que vous pouvez proposer, que j'ai trouvé réellement passionnant. Est-ce que vous, aujourd'hui, ça, le fait d'avoir monté Amélie Roulier Accompagnement du Deuil, donc cet organisme de formation et d'accompagnement, quelque part, je préférais plus dire organisme d'accompagnement que de formation, est-ce que c'est votre façon aujourd'hui de rendre aux autres l'expérience acquise avec le décès de votre frère et de leur éviter, alors, autant que faire se peut, hein, les écueils que vous avez rencontrés?
Je dirais oui, et je dirais pas que. Parce que je pense qu'il y a un mouvement très naturel de vouloir aider les autres de la même manière qu'on a été aidé quand on vit un deuil. Mais c'est pas le chemin de tout le monde de faire ce choix. Et tout le monde n'est pas n'a pas la capacité de le faire parce que c'est voilà, ça implique plein de choses derrière très concrètes, hein, de l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est loin d'être facile, mais effectivement, c'est sûr que cette expérience, elle m'a donné un regard sur ce qui peut être vécu et une vraie conscience de l'émotion dans laquelle on peut vivre, des difficultés qu'on peut traverser, même si j'ai pas traversé toutes les difficultés. Voilà, c'est quelque chose qui est très incarné pour moi. J'ai effectivement pris beaucoup de temps parce que ça a été un cheminement long, mais c'était déjà, j'avais un métier, je suis ingénieure et j'avais un métier qui me plaisait, dans lequel j'étais heureuse et j'apprenais plein de choses, donc j'avais pas envie au départ de quitter ça. Et puis il y avait aussi un point d'attention très important pour moi, c'est que on se soigne pas à travers les autres. Enfin, c'est un gros danger quand on va trop vite. Dans ce genre de démarche, c'est de se soigner à travers les autres. Et du coup, de rentrer dans une attitude où on impose à l'autre, même avec en toute bonne foi, mais on impose à l'autre des solutions qui sont pas les bonnes pour lui. On n'est pas dans l'écoute, on est en train dans une réparation de soi. Et ça, c'était vraiment un point rouge. Il n'était pas question pour moi de rentrer là-dedans. Donc j'ai pris beaucoup de temps de réflexion et effectivement j'ai fait ce choix au bout de 8 ans. Voilà, d'aller me former vraiment professionnellement pour pouvoir proposer ce que je propose aujourd'hui d'un point de vue professionnel.
Alors sur votre site, j'ai repéré une chose, j'ai trouvé qu'il y avait un... C'était presque, je ne sais pas si c'était une coïncidence ou pas, vous organisez une rencontre sur le deuil, rue Victor Hugo, le même Victor Hugo, qui a justement écrit ce magnifique poème avec cet incipit « Demain des lobes » qui concerne sa fille, hein, qu'il a perdue.
Oui.
Donc, vous vous rappelez, « Demain des lobes, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. » Et c'est cette rue où vous allez faire cette formation. C'était un hasard ?
Oui, c'est complètement un hasard. J'étais dans un endroit qui s'appelle les petites cantines, qui sont des lieux de retrouvailles. On cuisine ensemble et on déjeune ensemble. Puis après, voilà, c'est un lieu aussi où se passent des rencontres de tout type. Il y en a plein en France. Et pour faire le lien, la personne qui a monté ces tiers-lieux, on va dire ça comme ça, s'appelle Diane Dupré-Latour et c'est une personne qui a été aussi confrontée au deuil. Donc voilà, tout est un peu lié, je pense. Je pense que cette solitude, effectivement, de la personne endeuillée, elle permet à certains de se lancer dans des actions pour lutter contre ça. Et c'est beau de voir ça.
Et je parlais de ça parce que bon, c'est vrai que personnellement, hein, je considère que ce poème de Victor Hugo est certainement un des plus beaux, sinon pour moi le plus beau poème de la littérature française. Et c'est un poème sur le deuil. C'est un poème sur le deuil, voilà, hein, puisque il faut remettre les circonstances. Hein, lorsque Victor Hugo écrit ce poème, il est en exil, donc à Jersey, hein, étant donné que Napoléon III est au pouvoir. Il revient en France clandestinement, donc avec le risque de se faire arrêter, pour aller sur la tombe de sa fille. Et il écrit ce poème, voilà, sur le deuil, qui est absolument splendide. Et c'est vrai que quand j'ai vu que vous organisiez cette formation rue Victor Hugo, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça. Philippe Supercase, vous avez une question?
Oui, une question. Vous faites de la formation ou de l'accompagnement, comme dit Philippe Noni. Quel est le caractère des personnes qui viennent? Est-ce que majoritairement, ce sont des gens qui ont conseillé une personne qui est dans le deuil de venir vous rencontrer ou suivre votre accompagnement pour les aider. Et quelle est la partie de cette catégorie-là, ou plutôt des gens qui veulent s'en sortir par eux-mêmes et qui disent « je vais essayer de m'en sortir, je vais essayer de trouver de l'aide, je vais essayer de trouver de l'apaisement en venant vous voir ». Quelle est cette partie? Est-ce que c'est plutôt on conseille aux gens de venir vous voir ou plutôt c'est personnel, on vient pour essayer de s'en sortir?
Alors, ça fait quelques mois que je suis sur cette partie deuil parce que je me suis formée l'année dernière.
Oui.
Donc, pour le moment, c'est plutôt des gens qui viennent me voir directement parce qu'ils ont eu l'information plutôt que des gens qui sont redirigés vers moi. Mais ça va venir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Il y a beaucoup de femmes, pour rien vous cacher, parce que beaucoup d'hommes ont du mal à passer la porte. Je pense que voilà, c'est pas forcément les mêmes besoins en termes d'accompagnement et de parole aussi, peut-être. Mais après, voilà, j'ai des
On accompagne pas un deuil pareil pour une femme ou un homme?
Si, on l'accompagne de la même manière, mais en fait, dans ces ateliers qui sont ouverts à tout le monde, il y a beaucoup de femmes, vraiment beaucoup de femmes. Parce que je pense que c'est beaucoup plus féminin d'aller se poser sur une chaise et de raconter aux autres, de partager ce qu'on vit. En tout cas, c'est la sensation que j'ai et les chiffres le démontrent. Donc voilà, mais par contre, effectivement, quand il y a des hommes qui arrivent, il n'y a aucun souci, on les accueille de la même manière que les femmes. Moi, je suis très touchée par la douleur des hommes, des papas que je rencontre. Voilà, j'ai eu des hommes autour de moi qui ont été forcément endeuillés dans ma famille et je trouve ça vraiment très touchant de voir la manière dont ils expriment leur deuil et maintenant, je suis très consciente que la société n'aide pas à l'expression de la douleur. Vous citez Victor Hugo, finalement, Victor Hugo, il dit quelque chose, c'est un père qui parle. Et c'est ça aussi qui rend le discours, pour moi, très touchant.
C'est pour ça que j'en parlais. C'est pour ça que j'en parlais, parce qu'en plus, on est au 19e siècle. Hein. Alors certes, on est dans la période romantique. Mais malgré tout, c'est un père qui exprime son deuil. Qui plus est, c'est un père qui exprime deux deuils, hein. Même s'il ne le dit pas, c'est le deuil de sa fille et le deuil de son pays. parce que il écrit ce magnifique poème justement au mois de mai, lorsqu'il est en exil, il écrit ce vers superbe, le mois de mai sans le France, sans la France, ce n'est pas véritablement le mois de mai. C'est certainement le plus beau vers et la plus belle déclaration d'amour qu'un homme puisse faire à sa patrie, dont il est en deuil, et également à sa fille. Ce qui fait qu'il ne peut pas aller. Il va apprendre d'ailleurs le décès de sa fille un mois après. Vous voyez, contrairement à aujourd'hui, on l'apprend très rapidement. C'est pour ça que, quand j'ai vu que vous alliez rue Victor Hugo, je me suis dit, il y a quand même quelque chose, il y a du sens, je me suis dit là. Oui, Philippe Subercase.
Oui, toujours. très actif dans cette chronique. On est dans une radio chrétienne, ici à Radio Présence. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour un croyant de vivre un deuil ou par rapport à une personne qui n'a aucune croyance?
Alors, c'est une question, peut-être que je vais répondre avec des pincettes, parce que la croyance... Il y a plusieurs religions qui proposent un après, qui a, voilà, il y a la résurrection, il y a la réincarnation, etc. Je pense que quand les personnes croient à quelque chose qui se passe après, déjà ça aide plus que quand on croit au fait que la mort c'est un coup près et qu'il n'y a plus rien derrière. Ça joue. La spiritualité de manière large aide. Après, dans l'espérance chrétienne, il y a effectivement quelque chose de très lumineux et voilà. Je pense que effectivement ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé parce que je crois à la force de la prière et que j'ai eu la chance. On a eu la chance d'être entouré par nos familles, nos amis, mais aussi par la prière de beaucoup de gens. Donc je vous dirais oui, et en même temps je vous dirais il y a aussi des gens qui s'en sortent très bien en niant d'autres croyances que des croyances chrétiennes en fait.
On va devoir s'arrêter là pour cette semaine. Le sujet est vraiment très intéressant. Donc, j'aimerais bien qu'on se retrouve la semaine prochaine. Mais je pense que vous êtes d'accord, Philippe.
Ah, tout à fait, complètement. Et on se retrouve aussi, la semaine prochaine avec Amélie Roulier pour
la navigation. Tout à fait. Je suis transporté.
Même si le sujet, bien sûr, est un peu.
Il est transporté, même s'il a un certain âge, quand même, hein, notre Diego National. Hein,
ouais. Ouais, mais il vole. Il survole.
Il est contemporain, l'a dit déjà, de l'époque de Napoléon III. Hein, donc, du poème.
Même d'avant.
Oui, pardon, c'est vrai.
Le perfoir, juste, on se retrouve parce que le sujet est intéressant. Et j'aimerais que la semaine prochaine, avec vous, on puisse rentrer plus en détail dans ce que vous proposez, dans cette thérapie.
Voilà, au niveau d'Amélie Roulier, accompagnement du deuil, donc qui est l'instructeur qu'elle a.
À la semaine prochaine.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Subercase.
Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. Bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes, mais moi mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans
s'accrocher l'air pitoyable. Mais partir sans faire de bruit, il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Dans le Lauragais, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Nous avons été créés pour la plénitude, les mots du pape ce matin lors de l'audience générale hebdomadaire. Léon XIV a poursuivi son cycle de 14